When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Fin, le cofondateur d'Utopia, entreprise à mission Bicorp, dans la conviction qu'il faut agir vite et fort pour promouvoir une consommation plus responsable. Salut, je suis absolument ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour Alice, merci de ton accueil.
Alors, raconte-moi ce qu'est Utopia, parce que finalement, je t'ai pas bien résumé ce qu'était Utopia. Tu as mieux présenté ton entreprise que moi-même.
Oh, c'était pas mal quand même.
Pas mal. Bah, en même temps, je l'ai repris sur ton site, c'était facile.
Oh, ouais, c'est bien, moi qui l'ai lu. Écoute, Utopia, c'est effectivement un acteur économique plutôt du monde financier, parce qu'on investit dans les sociétés. Après, effectivement, on essaie de le faire avec un certain nombre de paramètres qui ne sont pas que financiers. On parle souvent de paramètres extra-financiers. Et donc, effectivement, on essaie d'accompagner des sociétés qui, de notre point de vue, font avancer les choses dans une direction qui nous semble être la bonne. Alors, parfois, c'est du relatif. Chacun ses critères. Mais en tout cas, on a les nôtres. Et donc, effectivement, globalement, on vient plutôt des marques de la consommation pour les aider à aller vers la consommation plus durable qui intègre un certain nombre de dimensions sociétales, environnementales, etc. Et puis, on a élargi, puisqu'on est actif depuis quasiment une dizaine d'années, un spectre un peu plus large. On mentionnait tout à l'heure avant de commencer l'interview, le fait qu'on commence à investir dans l'éducation, par exemple, spécialisée. Et donc, globalement, on essaie de rendre le quotidien durable, désirable, ou en anglais, sustainable lifestyle. C'est le fait de se dire, proposons aux gens des produits, des services portés par des marques engagées qui donnent envie d'aller, de les suivre et du coup de consommer et de fonctionner au quotidien de manière probablement plus adaptée aux différentes contraintes.
Et justement, j'ai beaucoup de start-upers qui nous écoutent. Si je suis une start-up aujourd'hui, comment est-ce que je peux être éligible à Utopia ?
Alors, il y a un certain nombre de paramètres, effectivement, classiques. Chaque fonds a un peu ses spécialités. Donc, nous, on va dire qu'on est plutôt sur le stade du début de vie des entreprises. Donc, plutôt des jeunes, on appelle ça des marques émergentes, nous, émergentes et engagées.
Est-ce qu'il y a un nombre de salariés ou pas ? Ou un nombre d'années, peut-être ?
Alors, plutôt taille d'activité. Donc, ça fluctue aussi en fonction des fonds et de leur durée de vie, entre guillemets. Donc, c'est un peu une tambouille de fonds, mais les fonds ont des durées de perte d'investissement, période de détention et ensuite de cession des actifs. Et donc, par exemple, là, on est plutôt sur la fin de la période d'investissement de notre fonds qu'on appelle early stage, donc pour les marques jeunes. Et donc, du coup, comme on a un peu moins de temps devant nous, on investit plutôt dans les sociétés qui font 3-4 millions de chiffre d'affaires minimum.
D'accord, donc en fait, tu regardes quand même déjà si elles sont rentables, ça c'est hyper important.
Alors, chiffre d'affaires ne veut pas dire forcément rentabilité, oui. En tout cas déjà une certaine taille.
Un CA, voilà, après peu importe le poids.
Peu importe, après on essaie de voir quelle est la capacité à être profitable, parce qu'effectivement, on pourrait y revenir, mais moi j'ai eu une démarche, ça fait 20 ans que je fais de l'investissement, j'ai commencé en 2003, et avant je fais de l'investissement pur et dur, entre guillemets, et j'ai trouvé que ça manquait de sens. Ensuite j'ai voulu faire de l'investissement avec du sens, mais je me suis toujours dit, attention à investir dans des sociétés qui ont une viabilité, parce qu'effectivement l'impact est fondamental, mais des entreprises, sinon c'est pas des entreprises, c'est des associations ou c'est des modèles économiques qui tiennent par des subventions ou d'autres modèles. Voilà. Nous on accompagne des entreprises commerciales, donc c'est très important de pouvoir payer les salaires, payer les fournisseurs, payer le risque pris par l'investisseur. Donc effectivement il faut qu'il y ait un chemin vers la rentabilité. On est en général un investisseur dit de croissance, donc on finance le développement, et donc ça peut passer par des pertes, mais des pertes, on va dire, ponctuelles, mesurées, vers ensuite un stade de maturité qui permet la profitabilité.
Donc, ça, on l'entend de plus en plus, hein, ce que tu me dis. C'est pour ça que ça résonne. C'est que avant, quand moi j'étais un peu dans le milieu des startups, on pouvait un peu être une startup pas rentable. Et c'était les investisseurs mettaient un billet sur, bah, sur l'idée, etc. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, alors je me trompe, peut-être je ne suis pas dans ton secteur d'activité, mais j'ai quand même l'impression autour de moi qu'il faut être un minimum alors, rentable.
Le monde a clairement changé en 2 ans, là, ça c'est sûr. Donc avant, effectivement, on pouvait avoir des trajectoires sans être jamais rentable.
C'est ça.
Des
Doctolib, même on voit les Twitter, les trucs comme
voilà,
ça.
Voilà, exactement.
Doctolib, c'est pas rentable.
Alors aujourd'hui, je pense que ça ne l'est toujours pas. Après, ils ne sont pas rentables parce qu'ils ne cessent d'investir dans de nouveaux ouais. métiers, expansion. Okay. Voilà, c'est du réemploi. Beaucoup de modèles, s'ils arrêtaient de chercher l'hypercroissance, ils seraient rentables. Donc c'est aussi
et même un choix. Extra rentable.
Ouais, attends, les modèles dits de SaaS, de logiciels sur abonnement, si vous arrêtez de payer vos équipes de commerciaux, c'est de l'abonnement sans aucun coût, donc c'est extrêmement rentable. Ça, clairement, il y a un choix qui peut être fait de croissance ou rentabilité. Après, il y a des modèles où, normalement, structurellement, on doit être rentable. Si on ne l'est pas, il y a un problème. Si vous payez plus cher votre client que ce qu'il vous rapporte et qu'il rachète jamais, c'est un achat en une fois, le modèle a un problème. Donc, c'est important d'avoir un modèle qui tient la route. Ensuite, il peut passer par des années de pertes. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, c'est plus dur de financer durablement des courbes. On appelle ça des courbes en J. Donc, comme un J, ça, au début, on perd, on descend, puis on remonte. C'est plus dur de financer de longues courbes en J aujourd'hui qu'il y a quelques années, ça c'est clair. Et donc, on appelle ça les séries ABC. Moi, je m'amuse en disant que c'est un peu l'alphabet. Nous, on n'a jamais été trop là-dedans, mais effectivement, pendant des années, on faisait des séries A, séries B, séries C. Et on appelait ça... on était très fiers de faire ces grands tours de financement, comme si c'était un exploit, alors qu'en fait, c'est pour couvrir des pertes, pas forcément un bon signe.
Mais, oui, et puis là, dans les startups dans lesquelles tu investis, tu me parlais de produits du quotidien. Donc, si en effet... t'en vends pas suffisamment. Il y a quand même des coûts, comme tu me disais, dans le truc de structure, mais il y a quand même de la vente. Normalement, il y a un CA, quoi.
Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit ça. Quand on a levé notre fonds, moi, je disais à nos investisseurs, bon, on n'est pas sur des trajectoires qui justifient d'avoir des grosses pertes, parce qu'effectivement...
Des gros J.
Voilà, exactement.
la
grosse courbe du bas. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur des modèles de développement de techno très longs avant qu'ils soient commercialisés, etc. Il y a des paris comme ça. On a quelques boîtes comme ça. J'ai deux exemples. On a financé Bastille, qui est un vélo pliant, qui a pas mal fait parler de lui ces derniers mois, parce qu'il a lancé la communication sur son produit qui est disponible à partir de cet été. Et donc, c'est le designer de la poussette Yo-Yo qui a designé un vélo grande roue pliant assez magique. Donc, on l'accompagne depuis quasiment 3 ans. Lui, ça fait 8 ans qu'il bosse sur son truc.
Il est très dans l'air du temps. En même temps, quand tu fais un beau vélo...
Un vélo pliant qui pliant. Répond aux problématiques du transport, du vol, etc.
C'est du vol.
En ce moment, c'est un peu un sujet, oui. Mais donc, typiquement, là, c'est un développement de produits industriels. Donc, c'est magnifique. Mais effectivement, du coup, il faut pas mal d'années. Et donc là, effectivement, il faut accepter de financer des pertes assez longues liées au développement du produit. Donc ça, je comprends. Mais un business plus classique qui vendrait, je sais pas, des produits d'agroalimentaire, s'il est structurellement pas rentable, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc il faut regarder dans le détail pourquoi il y a des pertes. Est-ce que c'est pour justement investir, préparer des positions de marché qui seront, elles, tenables, rentables, etc. Ou est-ce que c'est un problème structurel? C'est le boulot qu'on fait quand on regarde un dossier.
Et au-delà de l'investissement, tu m'as dit que tu les accompagnais. En quoi?
On essaye, oui. Alors, dans l'équipe, déjà, on a des parcours un peu variés, des personnes qui sont passées plus par des aventures entrepreneuriales ou opérationnelles. Et après, on est passionnés, nous, par nos sujets, donc on est vraiment alerte et impliqués. Donc, on essaie de les aider sur la veille de marché, les infos sur les concurrents, des intros pour le développement d'activités, le recrutement de talents, les prochains tours de financement, préparer des éventuelles sorties auprès d'opérateurs, par exemple, du marché. On a fait des choses très concrètes. Récemment, on a eu un petit article sur le fait qu'on faisait ce qu'on appelait du service for equity. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher des grands groupes qui aident nos startups à se développer en leur apportant des ressources dont elles disposent et qu'elles mettent à disposition du coup de la startup, et on les rémunère en action. Et ça fait des choses assez formidables. On avait fait ça par exemple pour avec Pierre Fabre qui avait
On a eu le PDG
Eric Ducournau.
Ouais, on l'a. D'ailleurs, je peux lui envoyer un texte aussi.
Ah bah,
j'ai son 06.
Et bah, alors, pourtant j'ai écouté certains épisodes, mais j'ai pas vu qu'il était passé. Ouais. Et ben écoute, j'adore.
Et d'ailleurs, il écoute nos podcasts, donc tu peux lui faire un coucou. Et je pense qu'il écoutera celui-là.
Je veux dire que tu nous manques. Parce que Pierre Fabre a repris même cosmétique, donc nous n'avons plus nos boards ensemble. Donc Eric me manque puisqu'il me faisait toujours un petit quart d'heure de bilan général du marché que je trouvais très très intéressant. J'aime beaucoup sa personnalité et son talent. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très intéressant, comme tous ces grands dirigeants. C'est moi qui... C'est moi, l'autre monde. Moi, je connais plutôt les startups avec toutes les qualités d'entrepreneur. C'est toujours intéressant aussi d'avoir un grand dirigeant qui a d'autres
regards. Complètement. D'autres c'est un écosystème. Regards. Hein.
Voilà, c'est vraiment de... C'est très intéressant d'avoir les deux visions. Et donc, typiquement, Pierre Favre a mis à disposition la force de vente Aven, je ne sais pas s'il en a parlé dans le podcast, pour développer la marque Même Cosmétique qui est dédiée aux femmes en traitement anticancéreux en pharmacie. Et grâce à leur force de vente, on est passé de 500 à 5000 pharmacies. Et ce service-là, il a été facturé, incorporé au capital. Et donc, Pierre Favre a été actionnaire via une prestation de service, quelque part. Donc, c'est ce que faudrait qu'on dise service for equity, donc du prestation de service pour être actionnaire. Et donc, c'est amusant. C'est des choses. Voilà, et ça, on l'a fait plusieurs fois. Là, récemment, on l'a fait sur Moderato, notre marque de vin sans alcool. Et c'est une
marque de vin sans alcool, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais oui.
Ah, bah,
mais
c'est vrai que c'est. J'étais au Salon Wine Paris lundi, je peux dire qu'il y avait
du monde sur le stand. Et on a le droit de les appeler vin sans alcool.
Tout à fait, parce que c'est du vin désalcoolisé.
Donc,
il y a des marques qui sont à base de jus de.
Ouais, tu n'appelles pas ça jus, quoi.
Non.
Parce que c'est fait comme du vin.
C'est du vin qui a été désalcoolisé, où on a fait monter en température pour faire partir l'alcool.
Ah oui, ben voilà, j'allais te demander. Du coup, question écologie, est-ce que le fait de désalcooliser du vin, ça a une empreinte ?
Alors, c'est ça s'est fait à basse température, donc c'est assez peu consommateur d'énergie, globalement. Et ensuite, rien ne se perd, tout se transforme, comme on dit, puisque l'alcool évaporé est récupéré et ensuite recommercialisé dans des liqueurs, des brandies, etc. Donc, globalement, on perd pas grand-chose. Et surtout, ça ouvre des filières. Il y a quand même un énorme enjeu de surproduction de vin en France. C'est assez terrible, la baisse de la consommation. Alors, c'est bien d'un point de vue santé publique, je pense, mais c'est un vrai problème de filière. Et...
Tu vas déculpabiliser ceux qui voulaient s'ouvrir une petite bouteille ce soir. Ils vont dire, je contribue à l'économie du pays.
Bah, faites-le, mais avec du vin sans alcool. Du coup.
Voilà,
comme
exactement.
Ça, vous faites d'une pierre deux coups. Et donc là, justement, c'est super intéressant. C'est Vivadour, qui est une grosse coopérative du Sud-Ouest, qui nous a contactés en disant, voilà, nous, on a identifié cet enjeu. Nos adhérents ont un problème de filière. Et vous, on a vu que vous lanciez une marque de vin sans alcool. Ça nous intéresse. Et on s'est dit, bon, bah, c'est drôle, la rencontre de la start-up et de la coopérative agricole. Et en fait, ils ont convenu de lancer ensemble le premier centre de désalcoolisation en France, parce qu'aujourd'hui, on ne peut le faire qu'en Allemagne. On ne peut pas désalcooliser en France, il n'y a pas d'outils. Et donc, ils ont investi. Ça s'appelle le Chez Sobre. C'est drôle. La prestation de service de désalcoolisation va être incorporée au capital. Et donc, Vivador va devenir actionnaire de Moderato par la prestation de service. Et surtout... j'étais vraiment fier parce qu'on était allé en équipe justement dans le Gers au début janvier. Ils vont relancer un site qui était fermé depuis 2 ans à cause de la baisse du volume. Donc là, sur l'empreinte, le lieu est magnifique. il y a tous les équipements et il ne sert à rien. Et donc, au lieu d'avoir un site en jachère qui est un site industriel magnifique, ben, ils le relancent pour cette filière. Donc, était super fiers. Hein. C'est typiquement. Moi, j'appelle ça utiliser les actifs dormants. Moi, utiliser les actifs existants, ça m'a toujours.
C'est comme l'immobilier, satisfait. Moi. Ouais. Moi, l'immobilier, ça me tue.
Voilà, il faut faire avec ce qu'on a.
Exactement.
Et au lieu de construire. On a une autre boîte qui fait un peu ça, qui s'appelle Olibi, qui n'a pas de centre. Donc, c'est une marque de cours de yoga. Et au lieu d'avoir des emplacements, elle, qui servent 3 heures par jour, elle a 80 lieux sous contrat, que ce sont des écoles, des hôtels, plein de lieux, même des bureaux, je crois. Et elle organise des cours de yoga dans des lieux temporairement
éphémère,
disponibles.
En fait.
Éphémères. Voilà. Mmh. Et donc, cette logique d'utiliser actifs... à la maison, ma femme se moque souvent de moi. J'adore ouvrir le frigo et faire avec ce qu'il y a. Et j'aime pas commander... des courses.
Tu sais que je crois que je n'ai jamais commandé sur Uber, sauf peut-être un soir avec quelqu'un, mais toute seule jamais. Et vraiment, c'est vraiment pas réflexe. Pareil que toi.
Non, ouais.
En fait, parfois, je fais exprès de ne pas faire de courses.
Juste
avec. Pour voir ce que j'ai. J'ai un œuf, un truc. Et je fais un truc bizarre, mais je suis tellement fière de moi, et du coup, ça devient bon.
Moi, j'ai mes trucs. L'omelette, c'est facile.
Ah ouais, mais
c'est
l'omelette, c'est passion.
Ça,
passion
c'est,
omelette, moi.
Ça, du coup, on met tout dedans. Et je me rappelle, il y avait une recette dans Astrapi quand j'étais petit qui s'appelait le Jifoutou. C'était une espèce de pâte.
Même les bouillies de riz avec tout dedans. En fait, tu fais une bonne bouillie.
Voilà. C'est un Pokéball.
Un risotto. Moi, je dis, ouais, c'est un super risotto. En fait, non, j'ai mis tous mes restes dedans.
Mais en tout cas, cette culture de travailler avec ce qui existe, moi, j'adore. Et donc, par exemple, typiquement, au lieu de réinventer la roue, se dire, il y a peut-être des gens qui ont cette ressource qui ne tourne pas, il y a peut-être des gens qui ont un savoir-faire et on va pouvoir essayer de l'utiliser. Donc, on essaie d'être assez créatif. Donc, typiquement, c'est des exemples assez concrets où on a aidé les sociétés à trouver des réponses à leurs problématiques via le réseau, via des idées, etc. Après, toute la partie montage financier. Et au service de projets industriels que je trouve géniaux. Quoi. Avoir un site comme ça qui se relance, c'est fantastique.
Et c'est quoi ta plus belles réussites. Alors, je ne sais pas si c'est la start-up qui a peut-être le mieux marché dans vos financements ou c'est plutôt un projet qui allait mourir et grâce à vous qui a tenu le coup, ou je ne sais pas. Moi, alors, juste, par exemple, un projet comme là, tu me citais, que tu trouves fabuleux et que tu es fier d'accompagner.
Ouais, j'avoue qu'en rentrant, donc, on a fait un petit séjour d'équipe dans le sud-ouest. Et en rentrant, donc, on a visité deux sites industriels. Ce site de Vivadour qui va servir pour désalcooliser le vin. Et Ultra Premium Direct, qui est une société qui fait des croquettes pour chiens et chats fabriquées en France. Et on les avait accompagnés depuis 2017, fin 2017, début 2018. Et leur trajectoire de croissance est incroyable. Ils ont étendu l'usine, ils ont recruté énormément de gens sur place, etc. Et je me disais, voilà, il y a un cas, c'est on a su accompagner une belle entreprise familiale. En plus, c'est un couple en région qui s'est vraiment bien développé. Une autre, on est allé chercher une coopérative, on redonne naissance à un projet, et Moderato, la marque de vin, on l'a co-créé, donc on était vraiment à l'origine. On l'a fait quelques fois, on a fait aussi la création de Apic, c'est une chaîne d'escalade pour enfants, qui a maintenant une trentaine de centres dans 4 pays, et on l'a créé de zéro. Donc maintenant, un des deux fondateurs est aux US, il a ouvert les 3 premiers centres aux US, je me dis waouh, c'est quand même dingue.
C'est bien de faire rayonner ce sport. Moi, je connais Manu, le champion de France. D'escalade, et qui me disait que même question sponsor, ils n'ont pas grand-chose, ouais. Parce que c'est un sport qui rayonne pas assez.
Alors,
et pourtant, c'est un sport
JO,
qui... Ouais, mais c'est Tokyo, quand même, ouais. Un sport où il n'y a pas d'argent, entre guillemets, dedans. Ouais. Hein. Donc, c'est bien de le faire rayonner, parce que c'est un superbe sport, et ultra convivial. Moi, j'ai eu la chance, du coup, il m'a appris, il a bien vu que j'étais mauvaise, mais de voir l'ambiance aussi qu'il y a.
Alors, ça s'est bien développé, hein, et tout ce qu'on appelle le bloc,
ouais,
tu faisais du bloc,
ouais, enfin, j'ai fait. Je faisais pas de façon très régulière, dirons-nous.
Ça a beaucoup démocratisé, ça l'a rendu plus urbain.
Mais oui, puis tu peux y aller tout seul, et en fait,
ouais,
tout le monde qui
y a
t'aide.
Des gens,
c'est
avec toi,
absolument,
ouais,
incroyable. Moi, tout le monde m'aidait à descendre, notamment parce que j'ai été montée assez haut, et je ne savais pas
descendre
à l'époque.
C'est pas plus de 4 mètres.
Manu m'avait fait monter assez haut.
Aïe.
Et il m'avait oublié de m'apprendre à tomber. Aïe. Donc en fait, j'étais littéralement bloquée.
Mais t'étais avec une corde ou...
Non, non.
Aïe. Alors,
il m'a dit, mais saute.
Alors nous, le concept est un peu spécifique. C'est pas du bloc ni de la corde. Ça s'appelle du fun climbing. Donc en gros, c'est des murs où on est auto-assuré. Donc l'enfance...
Non, mais toi, c'était très haut. Non, moi, c'était pas haut. C'était pas ça, c'était pas haut. C'était...
Mais toi, c'est 4 mètres, c'est le bloc.
C'est... Non, oui, mais c'est même pas en haut. J'étais, pas... ouais. J'étais déjà suffisamment haut pour moi.
Parce que
avoir
là,
peur,
nous,
mais
ça
pas...
monte à 7 à 12
mètres.
Ah
oui, non, mais j'aurais pas fait. Non, mais, déjà,
mais là, on est assuré.
Hein. Ouais, mais moi, j'ai le vertige.
Mais ce qui est marrant, c'est que les enfants se lâchent sans problème et sont retenus, alors que les adultes sont tétanisés en haut. C'est assez drôle. Mais bref, donc voilà, des histoires comme ça, on est à l'origine, on pense à l'idée, on trouve la personne et tout s'enchaîne et c'est extraordinaire. Tu vois, on avait l'assemblée générale de nos fonds en novembre et il y avait trois interventions de dirigeants. Et alors, c'était pas coordonné, mais les trois ont fait un retour sur, j'avais oublié certains épisodes, sur des aides ou des moments clés où on avait été là. J'en avais les larmes aux yeux, je me suis dit waouh. Donc, le côté d'avoir le sentiment d'avoir été utile à des trajectoires individuelles d'entreprise, voire même un peu laisser une empreinte positive dans un certain nombre de cas. Je suis hyper fier. Après, j'ai des trucs qu'on a ratés et des trucs qui m'ont empêché de dormir la nuit ou qui ont
continué. Ça, tu veux nous en parler ou pas?
Moi, je parle de tout. Les trois valeurs de Topia, c'est ambition, transparence, bienveillance. Donc, j'assume.
Non, mais en fait, je trouve ça chouette parce qu'il y a aussi pas mal d'entrepreneurs qui du coup, voient que des réussites sur Instagram, sur LinkedIn. Tout le monde a réussi, tout le monde est génial. Waouh, j'ai un coup de chance. Et en fait, il y en a beaucoup plus qui échouent. Et je pense qu'il faudrait leur dire que c'est pas du tout les seuls. Et au contraire, c'est la majorité.
Tu parles à un convaincu. Parce que moi, j'aime une histoire perso. Alors, j'en avais parlé. J'étais passé dans Génération Do It Yourself. Et justement, je m'étais dit que je voulais parler de ça parce que justement, j'aime pas du tout le côté. Il n'y a que quand on a des bonnes nouvelles qu'on parle, et quand on parle, on ne parle que de ces bonnes nouvelles. Donc, c'est vraiment pas du tout ma philosophie. Donc, moi, j'ai eu un gros trou d'air, et qu'à ce moment-là.
T'as fait un J, toi ?
J'ai fait un gros J. J'ai fait un gros J. Donc, en gros, j'avais commencé dans les fonds classiques, et donc en 2003, et en 2008, j'ai eu un. J'ai somatisé le fait que j'étais pas bien, en fait. Et donc, j'ai vraiment eu un. Alors, je sais pas si c'était un burn-out ou.
Ça peut, hein.
C'était un mix, mais en gros, j'ai perdu ma voix, alors que j'aime bien.
Ça, c'est un burn-out. Ça, c'est un burn-out si ton corps a lâché.
Alors, justement, non, mais c'était. Oui, je me suis complètement liquéfié.
Ouais,
voilà, donc je pense que c'était un burn-out. Après, effectivement, je me suis pas retrouvé à ne pas pouvoir me lever le matin pour aller au boulot, par exemple. Mais,
c'est des symptômes différents. Ouais. Moi, par exemple, j'en ai eu un et en fait, j'ai eu une péricardite. Ensuite, j'ai eu tout mon pied qui s'est fracturé.
Ah, oui.
En fait, c'est ton corps qui lâche. C'est juste ça, le burn-out.
Du coup, ça, je l'ai eu, tu vois. Et donc, j'ai pris une année sabbatique. Pour reprendre mon souffle, etc. Et j'ai vraiment eu une période de grande. enfin de grand déboussolement en me disant oh là là, mais en fait qui je suis, à quoi je sers, pourquoi j'ai fait ces choix, etc. Et j'étais vraiment complètement perdu.
À quel âge à peu près?
C'était la crise de la trentaine. J'avais 30
la
ans.
La crise de la trentaine. Ouais. Bah, moi je l'ai fait à 15 ans, ma crise de la trentaine.
Ah, bah, voilà.
Ah, bah, alors, quand t'as un TDAH, tu l'as fait très tôt.
En l'occurrence, on dit souvent qu'il y a, bah, y a un peu plusieurs fenêtres, donc il y a effectivement l'adolescence. Il y a un passage assez dur à 20 ans où même je crois que physiologiquement on peut avoir des gros soucis de système qui fonctionnent moins bien avec vraiment des troubles assez significatifs. Après, et puis après il y a la trentaine, la quarantaine. Alors moi mon coach à l'époque m'avait dit bravo, t'as fait ta crise de la trentaine, donc ta quarantaine sera sereine. Et effectivement, ça s'est bien passé à 40
c'est
ans.
C'est bon, tu peux...
C'est bon, j'atteins la cinquantaine.
En même temps, là, t'as plus de dissonance, t'es aligné. C'est-à-dire que tu fais ce que t'aimes, parce que t'aimais ce que tu faisais. Le problème, c'est qu'il te manquait le sens, si j'ai bien compris.
Oui, mais alors, donc tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai été dans une plénitude au moment où je suis lancé. En plus, les premières années marchaient très bien. Et ensuite, ces dernières années, c'était extrêmement dur, l'environnement. Donc on a tous connu ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, arriver à prendre des bonnes décisions quand vous avez le Covid, l'inflation, l'Ukraine, les guerres,
on y est encore en vrai. Hein.
Exactement. Et du coup, moi, je trouve ça extrêmement dur. Et donc, typiquement, à la fois, je suis aligné. Et en même temps, je trouve que avoir la responsabilité de l'argent, parce que moi, j'investis l'argent des autres, hein, c'est la gestion pour compte de tiers, de choisir des projets en ayant en plus l'ambition qu'elle soit à la fois performante financièrement, mais aussi d'un point de vue sociétal, environnemental, humain, dans un environnement aussi chahuté, je trouve ça hyper dur. Donc,
moi, je trouve ça hyper courageux, au contraire. C'est, tu sais, la peur de, l'inverse du courage, c'est l'amour. Donc, tu leur donnes ta confiance, de l'amour. Et je pense que c'est... Enfin, il n'y a rien de plus beau. Moi, je trouve ça hyper, justement, courageux. Bah, en effet, il y a l'anxiété qui va avec, mais...
Bah, alors, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez dur, quand même, ces dernières années. J'ai fait beaucoup d'insomnie, parce que du coup, on a quelques boîtes qui n'ont pas marché, etc. Globalement, je suis content. Je pense qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire. Là, on a notre prochain fonds à lancer en fin d'année, mais globalement, je trouve qu'on a fait ce qu'on voulait faire. Mais en fait, moi, je vis hyper intensément les trucs.
Mais
donc,
toi, tu vis avec tous les start-upers, en fait.
Voilà, moi,
en fait,
j'ai 40 fois
le quotidien de tout le monde.
J'ai 40 fois le. Je suis tellement proche des projets qu'on a investi dans 35 sociétés. Je pense que les 35, je les
ai. Chaque échec, c'est
voilà,
pour toi.
C'est pour moi. Donc, ça, c'est vrai que ça démultiplie à fond. Après, à l'inverse, effectivement, quand un marche pas, je le vis mal, mais je rebondis tout de suite sur autre chose. Alors que demain, je prends un café avec quelqu'un dont l'entreprise a été fermée.
Oh,
bon, bah, il faut. Alors, il faut qu'il se relance, et c'était son projet. Donc, je le vis très intensément, tout en ayant la chance d'être sur plusieurs sujets, par définition, étant à gérer un portefeuille d'investissement. Mais je le vis très intensément. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie. Et du coup, je n'ai pas été que du bonheur jusque-là, mais je suis effectivement... Enfin, en tout cas, mais fier d'avoir eu cette énergie. Et puis, c'est marrant ce que tu disais, parce que j'écoutais l'autre jour le podcast de Nicolas Dufour, que je ne sais plus sur quel... le podcast, mais il disait que le gros problème en France, c'était la peur, en fait. Le fait d'être toujours dans l'inquiétude, de bien faire, l'autoflagellation dès qu'on a fait un mauvais choix. Et en fait, voilà, entreprendre, c'est prendre beaucoup de choix, faire beaucoup de choix, prendre beaucoup de décisions. Forcément, il y a des choses qui sont après coup, c'est toujours facile d'y revenir parce qu'on se dit « ah mince », etc. Et du coup, la peur de se tromper en France, elle fait que on n'est pas bon, en fait, sur psychologiquement, on n'est pas fait pour affronter ce genre de d'initiative. Et c'est dommage que ça nous freine, en fait, dans la capacité d'innovation, dans l'entreprise, etc. Et effectivement, je ne sais plus si c'était Steve Jobs qui avait dit ça dans les années 80, en disant, vous avez les meilleurs cerveaux, mais vous n'avez pas confiance en vous et vous avez peur de l'échec, donc vous n'allez pas y arriver. Alors que nous, les Américains, on s'en fout, on est toujours à positiver. C'est, les Américains sont toujours à dire, c'est incroyable, etc. Et alors que nous, on est à se flageller dès qu'on a fait un truc mal.
Et puis le VIH et la peur n'évite pas le danger. Et puis d'ailleurs, je trouve que tu illustres parfaitement un conseil que j'ai entendu récemment en termes d'investissement financier, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et même quand tu es start-upper, en fait, même si tu es à fond dans ta boîte, le seul conseil que je pourrais leur donner, moi par exemple, j'ai 12 000 activités, bah, tout ce qui était animation pendant le Covid, prestations en live n'ont pas marché, mais comme à côté je vendais des formations, je pouvais faire mon podcast en ligne, j'avais mon site, j'étais machin, bah, en fait j'ai continué. Et c'est pour ça que c'est hyper important, même quand on est à fond dans une boîte, de continuer peut-être à à voilà, assurer ses arrières d'un autre côté, bien sûr, d'encaisser quand c'est un échec. Hein, un échec reste un échec, mais ça permet de, que tout ne s'effondre pas.
Bah déjà, il y a la... Alors, c'est dur, c'est facile à dire, mais il y a la, le fait d'avoir une vie multiple, c'est-à-dire aussi en dehors de son projet entrepreneurial. Donc, moi, toutes ces années, j'ai à la fois essayé de développer Utopia, puis à côté, j'ai eu 3 enfants. On a essayé de bâtir une vie de famille, et donc, c'est hyper dur de tout faire en même temps.
Je ne sais pas comment, comment font les gens.
C'est effectivement... Alors après, bon, là, il y a 24 heures aussi dans la journée, donc de toute façon, globalement... On fait avec ce qu'on a et donc il y a des choses qu'on fait peut-être enfin en tout cas on est obligé d'arbitrer mais on est donc le fait de se dire qu'on a plusieurs sa vie est multiple et qu'on a plusieurs sources de satisfaction, c'est fondamental parce que s'il y a un axe qui se passe moins bien, on n'est pas ébranlé, il y a pas plus rien. Donc alors ensuite dans la vie professionnelle, c'est sûr que d'avoir gardé une forme d'agilité, d'être capable de rebondir. Bon, ces dernières années, elles ont poussé tout le monde, tous les entrepreneurs à être capables de réagir hein, parce que le Covid et autres, tout le monde a été confronté à comment continuer avec de telles contraintes. Mais plus généralement, effectivement, essayer d'avoir une vie un peu dans la mesure du possible, rempli de différentes choses pour ne pas être trop exposé à l'échec ou en tout cas à la non-réussite d'une voie, c'est important. Ouais, comme ça, on ne se retrouve pas ébranlé. Typiquement, dans l'univers pro, j'en ai connu hein, des gens qui avaient corps et âme dédiés à leur boîte. C'est terrible parce qu'effectivement, le jour où on se fait virer ou ça se passe moins bien, il n'y a plus rien en fait. Donc, avoir le souci de construire différentes briques de sa vie, ça me semble être effectivement un bon conseil.
Est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot de la fin pour nos auditeurs?
En tout cas, je trouve ça bien que tu aies souligné effectivement l'importance d'assumer que tout n'est pas parfait.
C'est ce qu'il faut aussi, c'est la saveur de la vie. Parce que tout était trop lisse, on se ferait chier.
Mais souvent les podcasts disent on va écouter des gens très inspirants, on va écouter des parcours passionnants. Et souvent, quand on l'écoute, on se dit alors, moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ?
C'est tellement culpabilisé.
Donc, voilà. Donc, en fait, du coup, typiquement, quand on écoute des podcasts comme ça, enfin, moi, j'ai un parcours, j'allais dire. Lambda, au sens où des gens qui ont fait des choses, il y en a des milliers. Et donc, chacun, en fait, dans son environnement, avec les cartes qu'il a en main, il est capable de faire des choses passionnantes, à impact, laisser son empreinte. Et donc, faut pas mystifier le sujet, penser qu'il y a des gens qui sont au-dessus et d'autres qui sont pas capables d'y arriver. Voilà, c'est se dire que tout le monde est en mesure de se prendre en main et faire des choses de son passage sur Terre sans forcément avoir une ambition démesurée.
Personne n'est pas assez, en fait.
Exactement.
Ne pas être assez. Ouais. Souvent, on l'entend.
Et ça nous freine alors que ça ne devrait pas.
Merci beaucoup. J'étais ravie de t'accueillir dans l'empreinte.
Merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.